du 7 juillet au 30 juillet, retrouvez toute l'actualité du Festival d'Avignon avec Osmose Radio.
Osmose Radio ?
Osmose.
Osmose. La web radio du off.
Vous apprendrez bien vite qu'au théâtre, le meilleur se passe souvent en coulisses.
Être ou ne pas être au Festival d'Avignon, c'est la question qu'on peut se poser encore une fois.
Un œil en coulisses, l'émission qui débauche les artistes et les déloge le temps d'une heure.
Auditeur, citoyen, je me réjouis de te retrouver sur Osmose Radio, moi Stéphane, pour une nouvelle émission d'un œil en coulisses. Car si traîner dans les rues malfamées du Hof au milieu de tous ces saltimbanques est un vice, eh bien écoutez la radio pour se renseigner sur ces mêmes pièces de théâtre est une vertu. Le vice, la vertu, les grands termes qu'utilisait Robespierre notamment, et aussi certains de ses camarades comme Danton, pendant les grandes années de la Révolution française qui ont vu tous les bouleversements qui ont traversé notre pays. La Révolution française, c'est un thème qui souvent revient dans la programmation du Festival Off, et vous ne faites pas exception, Jean-Vincent Brisa. Bonjour.
Non, bonjour.
Puisque vous venez nous présenter à votre collègue Jean-Marc Galera,
bonjour. Ouais.
Un spectacle qui s'appelle La Rencontre, Marat, Danton, Robespierre, ces trois hommes qui ont été majeurs pendant une période de l'histoire de France. Et alors c'est au théâtre La Libire, qui se trouve rue des Teinturiers, tous les jours à 17h15. Ça se passe relativement bien, j'ai l'impression, pour le moment.
Ben, disons qu'on est complet depuis la deuxième représentation, donc on peut dire que ça se passe bien.
Oui, parce qu'on était un petit peu serré quand moi je suis venu vous voir hier, et en même temps, voilà, on était un petit peu comme dans une assemblée constituante, par exemple, hein, où les députés étaient assez serrés, eux, parce qu'à l'époque, ils venaient tous, hein, contrairement à aujourd'hui. Et c'est organisé autour d'un triptyque, enfin autour de trois personnages, Marat, Danton et Robespierre, disais-je, mais pardonnez-moi, mais sur une telle période, vous auriez pu trouver d'autres personnages tout aussi intéressants. Fouquier-Tinville, Saint-Just, Lafayette, Desmoulins, j'en passe. Et pourquoi pas Charlotte Corday ou bien Olympe de Gouges, parce que les femmes n'ont pas été en reste pendant cette période. Vous vous êtes concentré sur ces trois personnages. J'ai envie de vous demander pourquoi.
Eh bien, je vais juste répondre, puisque j'ai écrit le texte. C'est tout simple, c'est que je suis parti d'un tableau. Un tableau qui se trouve au musée de la Révolution à Vizil. Un tableau qui représente ces trois personnages, Marat, Danton, Robespierre. D'ailleurs, c'est le titre de la peinture, donc d'Alfred Loudet. Et comme j'étais en résidence d'écriture, j'avais carte blanche, j'ai regardé ce tableau et j'ai voulu faire parler ces trois personnages, tout simplement.
Et vous allez peut-être me rafraîchir la mémoire, il me semble que Victor Hugo avait composé aussi un poème sur ces trois personnages.
Alors il a écrit un texte dans 1793 où il les place dans ce café
Procope.
Procope, merci. Voilà, donc dans l'arrière du café où se réunissaient tous les révolutionnaires. Mmh. Et j'ai pas été très heureux de la peinture qu'il a faite de Danton. C'est-à-dire tout le monde s'acharne un petit peu sur son côté, on va dire amour de l'argent, un peu de la droite d'aujourd'hui, voilà. Et j'étais pas tout à fait d'accord avec cette vision après différents témoignages que j'ai pu lire. Voilà, donc j'ai voulu un petit peu lui rendre un hommage en montrant que Danton n'était pas que ce qu'on a bien voulu dire de lui dans l'histoire.
Lui donner une humanité qu'on lui avait oubliée.
Ah, moi j'aurais plutôt dit que l'histoire avait été injuste avec Robespierre. Et pour ne rien vous cacher, pour que vous sachiez à qui vous avez affaire, messieurs, c'est que moi je suis un défenseur de la réhabilitation de Robespierre, hein, pour ma part. Donc,
bravo.
Comme ça, vous savez.
Ah, bah j'ai bien fait de venir alors.
Bah, vous êtes deux, je suis tout seul, donc vous allez me péter la gueule. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même défendre mes points de vue. Et effectivement, alors, ce poème de Hugo, je l'avais fait au lycée, et puis j'ai essayé de remettre la main dessus sur internet hier soir, j'ai pas réussi. Bref, c'est quand même un trio de personnages tout à fait singulier et tout à fait important de cette période de la Révolution française. Alors parlons un peu de vous, Jean-Vincent Brisa. Vous êtes fondateur de la compagnie En scène et ailleurs, et vous êtes originaire de Grenoble. Alors Grenoble, c'était à l'époque un peu en marge du royaume, le Dauphiné, et donc on aurait pu penser que vous êtes intéressé peut-être à des sujets comme Mandrin, par exemple, etc. Mais je crois que la période de l'Empire et de l'Ancien Régime sont des périodes qui vous intéressent plus particulièrement avec la Révolution, puisque parmi toutes les productions que vous avez faites, c'était souvent dans ces époques-là.
Alors c'est une période de ma vie, c'est-à-dire une période où je me suis effectivement intéressé, enfin qui est actuelle, puisque j'ai commencé en 2010 par là, voilà, à m'intéresser à cette période, parce qu'on m'a passé une commande d'écriture, et puis vraiment ça m'a passionné. Mais il faut savoir que Grenoble, c'est Mandrin bien sûr, mais c'est aussi tout le berceau de la Révolution française, c'est-à-dire que le Grenoble...
Barnave
oui, mais c'est Barnave, et avec lui la Journée des Tuiles. la journée des tuiles et la première assemblée des trois ordres du Dauphiné qui a eu lieu le 21 juillet 1788 à Vizille et qui a déclenché les états généraux du 5 mai 1789 et qui déclencheront le 14 juillet. Voilà.
Et vous, Jean-Marc Galera, comment vous avez été amené à, bien après cette journée des tuiles, 200 ans après, comment vous avez été amené à intégrer la compagnie et à rencontrer Jean-Vincent?
Oh, ça c'est une complicité qui s'est tissée il y a très longtemps déjà, parce que Jean-Vincent m'a offert de très jolis rôles, des grands rôles comme Don Juan par exemple de Molière, voilà, j'ai beaucoup, cette année, rien que cette saison, le Tartuffe.
Un sujet qui est toujours contemporain, comme celui de la Révolution.
Mais souvent, Jean-Vincent me le dit, voilà, tiens, Robespierre, là, il fait son Tartuffe. Mais voilà, donc c'est une complicité qui date des années 80, ça. Donc, j'ai intégré. Moi, parallèlement, j'avais aussi une compagnie à Grenoble, et puis j'ai fait. Voilà, comme tous les comédiens, je crois qu'on travaille avec différentes équipes. Voilà.
Et alors, donc, l'histoire de France, l'histoire du Dauphiné, vous recoupez un petit peu tout ça. Et on entre dans le vif du sujet avec ce trio. Alors, on commence par Marat, puisque c'est lui le premier en scène. Et là, il s'agit de votre collègue André Lehir. Lahir ou Lehir ?
Lehir,
excusez-moi, parce que Lahir, c'était un personnage, compagnon de Jeanne d'Arc. Mais là, on parle d'autre chose. André Lehir, alors, ce garçon est tout à fait impressionnant sur scène. Quand on entre, nous, le public, dans la salle, il est inerte, comme une statue de cire sur la scène, inanimée. Et il a une face de carême, il est assez effrayant. Tel un reptile, il est inanimé et tout d'un coup, il sursaute. Et là, ça fait presque peur. Et là, le spectacle commence. Et alors, votre partie de mise en scène, j'ai l'impression, c'est qu'il est très très malade à ce moment-là de sa vie. C'est quelques heures avant que Charlotte Corday vienne l'assassiner. Et on a presque l'impression qu'il devance l'appel de la mort, tellement il est mal, le pauvre garçon. Et dans son délire, vous faites intervenir les deux autres personnages que sont Robespierre et Danton. Et vous jouez sur cette ambiguïté de la réalité des propos et des personnages avec leur propre personnalité à chacun. Donc Danton, un homme à poigne, et puis Robespierre, beaucoup plus froid et calculateur. Et vous le faites très bien, tous sous votre perruque, c'est assez impressionnant, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et Marat, qui est dans son délire de fièvre, qui s'imagine ces personnages un petit peu comme des fantômes. D'ailleurs, sur scène, vous apparaissez un peu comme des fantômes.
Voilà, mais on ne veut pas non plus révéler la fin de la pièce. On va laisser aux spectateurs de découvrir qu'il y a quand même, on va dire, une chute, hein, quand même une finalité dans tout ça. Si vous voulez, le tableau de Loudet est un tableau purement imaginaire parce que nous sommes chez Marat. Donc effectivement, cette rencontre n'a jamais eu lieu chez Marat. Ils se sont rencontrés à la Convention. Mais comme cette rencontre n'a jamais eu lieu, ben voilà, vous l'avez un petit peu dit, il y a des fantômes et des personnages réels.
Alors, vous donnez ce cadre un petit peu fantastique, parce qu'il y a les éclairages, etc., le côté un peu fantomatique et presque cadavérique de Marat à l'instant, et en même temps sur des réalités avérées, sur des faits historiques qui correspondent à la structure de votre récit, à la structure de notre histoire, et aussi à tout ce qui ponctue votre récit. Alors, pour autant, j'ai l'impression, c'est l'impression que j'ai eue, vous allez me dire si elle est fondée ou pas, que finalement, on est d'un peu dans le rêve de Marat, que Danton et Robespierre arrivent un petit peu comme des intrus dans sa chambre pour une rencontre historique qui n'a jamais eu lieu, vous le rappelez, bien que ces garçons aient été contemporains et se soient rencontrés forcément, mais pas forcément dans les circonstances dans lesquelles vous les avez mis en scène. Par contre, j'ai l'impression que très vite, le spectacle, l'histoire s'articule autour du duel Danton-Robespierre et que finalement Marat apparaît un petit peu en contrepoint et en retrait, alors qu'on est quand même chez lui, quoi. Et quelque part, à certains égards, j'ai eu l'impression que Marat agissait un peu comme un cœur antique entre ce duel Danton-Robespierre.
Bravo.
Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Alors,
une belle lecture.
Tu veux répondre ?
Non, mais c'est une belle lecture.
Tout à fait. Non, ce que je voulais dire, ce qui est aussi... l'écriture est un peu complexe, il faut dire ce qui est, parce que je suis parti de très très grandes recherches et j'ai considéré que Marat étant un visionnaire, en fait, on commence... effectivement, à la date du 13 juillet 93, mais on évolue et on va quasiment à la mort de Danton. C'est-à-dire que comme Marat voit l'avenir, on évolue. Quand on commence, Danton a encore le pouvoir. Et à l'intérieur du texte, Robespierre prend le pouvoir. Et c'est ça qui est un petit peu déroutant aussi pour les gens, c'est que comme voilà, j'ai voulu montrer que Marat, voilà, visionnaire, voyait déjà l'aboutissement de la querelle d'Anton Robespierre qui allait devenir la chute de la Révolution française, et puis le retour, on va dire, du grand capitalisme, puis du grand personnage qu'on connaît qui s'appelle Napoléon, enfin d'abord Bonaparte avant d'être Napoléon.
Et vous dites visionnaire et aussi précurseur, parce qu'en quelque sorte je me suis fait la réflexion pendant votre spectacle, j'avais jamais pensé avant, l'ami du peuple, le journal de Marat, c'est un peu le Charlie Hebdo de l'époque.
Complètement, ou Mediapart, qui en a enchaîné, tout ce que vous voudrez, c'est il dévoilait des affaires. Il ne faisait que ça. Mmh. Tout à fait.
Alors que lui-même était médecin, mais c'est vrai que il a fait beaucoup pour la presse de cette époque. Et Charlotte Corday était en quelque sorte une terroriste, on peut dire ça aussi.
Non, c'était une naïve.
Elle a été instrumentalisée comme les djihadistes d'aujourd'hui.
Non, c'est incroyable. Charlotte Corday n'a été influencée par personne. Charlotte Corday, d'abord, c'était la petite fille de Corneille. Elle ne vivait que dans les poèmes de Corneille, dans les écritures de Corneille. Et elle faisait partie de la petite noblesse. Elle avait été mise en pension chez des religieuses. Et elle a simplement entendu les Girondins qui fuyaient Paris, parce qu'ils ont perdu le procès contre Marat. C'est là qu'ils sont partis à Caen, en fuyant. Et elle n'a fait que entendre ces Girondins dire que Marat était un sanguinaire et que Marat était en train de boucher, disons, l'aboutissement de la République à travers sa terreur et à travers son idée de despotisme. Il voulait être le dictateur, même s'il disait que je ne le voulais pas, c'est parce qu'il était malade. Mais il avait une envie, qu'un dictateur prenne le pouvoir. Hein. Et donc, pour les Girondins, il était l'obstacle. Et elle a simplement écouté ce discours, c'est tout. Et dans sa tête, à elle, elle a voulu purifier la nation, et elle a décidé de le poignarder devant la Convention le 14 juillet. Seulement, quand elle est arrivée à Paris, on lui apprend qu'il était très malade, qu'il était chez lui, et elle le tuera chez lui le 13, donc un jour avant la commémoration du 14 juillet. Enfin, voilà.
D'accord. Ah ben justement, donc c'est d'actualité. Et elle s'est montée le bourrichon toute seule, en quelque sorte. Ouais. Très bien.
Et la pièce se joue, hein, je le rappelle, le 13 juillet. Voilà. On le dit, Robespierre l'annonce au milieu du spectacle. Aujourd'hui, 13 juillet 1793, Robespierre présente à la Convention un programme d'éducation républicain.
Oui, dont il a été question d'ailleurs dans une pièce il y a 2 ans, ici même à Avignon, avec le programme, le travail de Le Pelletier notamment. Oui. Cet homme qui avait fait beaucoup pour l'éducation des enfants, qui était pour en faire des citoyens, des républicains. Mais Tacette sur le sujet, parce que votre spectacle est très riche et cette période est tout à fait passionnante et très dense au niveau historique. On n'a que quelques minutes, hélas. Mais je tiens quand même à préciser, vous disiez tout à l'heure, votre écriture est complexe. Là, on vient de rappeler que c'est une histoire, c'est une période historique très dense et avec beaucoup de faits, mais pour autant on n'est pas obligé d'être un grand connaisseur de l'histoire de la Révolution française pour apprécier votre spectacle. Oui, par exemple, il y a un point de détail qui me concerne moi, vous parliez des massacres de septembre 1792. Bon, soit, moi en regardant le spectacle, je me suis dit, je me creusais la tête, qu'est-ce qui s'est passé déjà à ce moment-là, etc. Et en fait, j'avais pas besoin de m'inquiéter. 5 minutes après, Robespierre a l'attention pour les spectateurs de rappeler un peu ce qui s'est passé, les massacres de septembre, quel était le contexte historique, pourquoi des gens ont été massacrés un peu comme à l'époque de la Saint-Barthélemy, tout ça, bref. Et donc même si on n'est pas un fin connaisseur de l'histoire de la Révolution française, on peut tout à fait apprécier votre spectacle pour des raisons comme celle-ci. D'ailleurs, je rappelle aussi qu'il y a ce côté psychologique très important qui tient au duel entre Danton et Robespierre et qui a des implications qu'on retrouve peu ou prou encore aujourd'hui, parce que Danton se fait et le chef, le meneur en tout cas des Girondins, qui sont peut-être pour un côté un peu décentralisation tel qu'on pouvait l'envisager à l'époque, et peut-être aussi plus libéral au niveau économique, et Robespierre lui est beaucoup plus idéaliste, peut-être même à certains égards plus extrémiste, et lui est plus jacobin, centralisateur et rigoureux. Et par conséquent, ces deux tempéraments s'opposent, mais aussi ces deux tendances politiques. Alors pour vous, j'imagine que pour la mise en scène, ça a dû être, et l'écriture, ça a dû être un travail... vous rentrez vraiment dans les personnages, parce que on parlait parfois de l'élégance bouffie de Danton, mais on vous sent passionné, vous avez ce côté physique, cette présence physique sur scène, et vous, Jean-Marc, vous êtes beaucoup plus froid, méthodique, cérébral. Je vous jure que, de mon point de vue, c'était tout à fait impressionnant, cette opposition entre le sanguin et le blême, entre le fougueux et le rigoureux.
Ah bah merci.
Et je dis pas ça pour vous passer la pommade, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Alors vous, comment vous êtes rentré dans vos personnages ?
Ben c'est beaucoup de... Ah, mon personnage, vas-y.
Oh, moi, j'ai abordé... Alors, quand Jean-Vincent m'a proposé Robespierre, j'étais un petit peu comme tous les Français, j'avais des a priori sur Robespierre. Hein. Je crois qu'il doit y avoir une place Robespierre à Montreuil. J'ai appris ça il y a quelques jours.
D'accord.
Mais il n'y a pas de rue Robespierre à Paris, par exemple, pas de place. J'ai rencontré quelqu'un qui militait pour ça, pendant le festival, qui militait pour la création d'une rue ou d'une place Robespierre à Paris.
Je dois le rencontrer, ce gars-là, mais est-ce que la place Robespierre à Montreuil est un vrai coupe-gorge ?
je ne lui ai pas demandé, mais nous irons faire un tour. Et puis, voilà, donc un petit peu comme tout le monde, je considérais Robespierre comme le tyran et le responsable de la terreur. Et Jean-Vincent m'a demandé de l'aborder un petit peu différemment. Hein. Je me souviens des premiers mots que tu as dit, je veux rendre ces personnages attachants. Alors, pour les rendre attachants, il fallait bien que je m'y intéresse. Donc j'ai lu des biographies, à charge ou à décharge. Et puis voilà, ça m'a nourri, hein, y compris celle de Michelet, qui est pourtant pas... Qui
porte pas Robespierre dans son cœur. Michelet, c'est l'histoire vieille France telle que l'ont appris nos arrière-grands-parents.
Oui, mais par exemple, chez Michelet, j'ai appris, contrairement à ce que me dit Danton dans le spectacle, j'ai appris que Robespierre avait une petite amie à Arras. Voilà, mais qu'il a dû... Comme il est parti à Paris, s'occuper de sa députation. 2 ans après, quand il est revenu, la petite amie ne l'avait pas attendu, elle s'était mariée.
Mais on disait que c'était platonique.
Non mais c'est vrai, vous arrivez à les rendre attachants, moi-même qui n'ai pas beaucoup d'estime pour Danton, hein, pardonnez-moi Jean-Vincent, eh bien vous avez quand même réussi à, de temps en temps, à faire en sorte qu'il arrive à me toucher. Donc, bien joué pour le coup. Et alors, vous êtes complet depuis quasiment la deuxième représentation, oui. Mais pour autant ce n'est pas une création pour le off, vous avez déjà fait des représentations avant.
Tout à fait, disons c'est une création pour André Luire, parce que c'est sa première, mais nous avons déjà fait peut-être, je sais pas, 30-40 représentations, je sais pas compter, ouais. Mais on a beaucoup joué à Vizille, donc dans le parc du musée. Voilà. Non, c'est pas.
Et puis
pas
en Isère et ouais. Dans la Drôme. Voilà, ça a été. C'est bien pour ça, hein, que le souhait avec Avignon était d'essayer de rencontrer des programmateurs d'autres régions.
Et puis surtout que tous les gens qui viennent le voir nous disent à quel point c'est aujourd'hui, quoi. Ce dont on parle, c'est aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'était l'occasion de pouvoir promouvoir ce spectacle.
Allez, on va conclure parce que si je me laisse aller avec toutes les notes que j'ai prises pendant votre spectacle, vous parlez du césarisme des généraux, vous parlez du compte social qu'ont réglé Robespierre et Marat par exemple, etc. Enfin bref, on pourrait en parler pendant des heures.
On parle beaucoup, en fait, les sujets abordés sont pour la plupart abordés dans la constitution de 1793. Hein, dont il est question à la fin.
Je voudrais juste une chose, pourquoi est-ce que Danton m'a paru attachant ? Tous les chefs d'accusation qu'a donné Saint-Just avant qu'il soit guillotiné, et annoté par Robespierre, c'est lui qui a donné le... Tout était faux, de A à Z. Ils n'ont pu faire que de fausses accusations pour pouvoir le guillotiner. À partir de là, s'il n'est pas sympathique, excusez-moi.
Oui, mais Danton s'était rendu responsable lui-même de beaucoup de mensonges. Quand il demandait une tête par jour.
Alors là, si on commence, on ne va pas finir en 2 minutes.
Venez, on va finir ça sur le ring tous les deux, après l'émission.
Et puis on parlera des massacres de septembre et du rôle de Danton.
Et puis on parlera des massacres de septembre. Mais je tiens quand même, et c'est pas du tout une réflexion déplacée de ma part, mais je tiens à vous préciser que dans votre jeu Danton-Robespierre, il y a aussi un côté Laurel et Hardy. Parfois, à certains égards, vous donnez un aspect comique à cette histoire tragique qui est parfois, alors à votre corps défendant peut-être, je sais pas, mais en tout cas pour moi ça m'a vraiment beaucoup plu, aussi pour toutes ces raisons dont je le rappelle, c'est au théâtre L'Alibi, rue des Teinturiers. N'oublions pas votre collègue aussi, Nicole Vautier, qui vous rejoint pour quelques instants sur scène, ainsi que André Lehir qui incarne Marat. Merci Jean-Marc Galera, merci Jean-Vincent Brisa, mettant en scène de ce spectacle la rencontre Danton Marat Robespierre à 17h15 à L'Alibi. Il y a une relâche mercredi et sinon c'est jusqu'à la fin du festival dimanche 30 juillet. Merci à vous et on va se quitter avec une chanson révolutionnaire qu'aurait peut-être entendu sous leurs fenêtres Danton, Marat et Robespierre à la guillotine.
Le député guillotin dans la médecine. très expert et très malin, fit une machine pour purger les corps français de tous les gens à projet. C'est la guillotine au guet, c'est la guillotine pour punir la trahison, la haute rapine. Ces amateurs de blason, ces gens qu'on devine, voilà pour qui l'on a fait ce dont on connaît les faits. C'est la guillotine au guet, c'est la guillotine. À force de comploter lors de mutines, à gagner sans y penser, migraine maligne. Pour guérir ces messieurs-là, un jour on les mènera à la guillotine au guet, à la guillotine. De la France on a chassé la noble vermine, on a tout rasé, cassé et mis tout en ruine. Mais le noble on a gardé de mourir le cou tranché par la guillotine au guet, par la guillotine, par la guillotine au guet, par la guillotine.